Vous intervenez au 01 45 24 7000. On verra tout à l'heure les réseaux sociaux, mais au standard, c'est plus que la colère, c'est l'incompréhension qui domine Myriam El Khomri sur le thème pourquoi le gouvernement s'acharne a-t-il à imposer cette loi ? Sommes-nous si nuls pour ne pas voir les progrès qu'apporte cette loi, etc., etc. On va écouter des auditeurs, on va prendre des auditeurs à l'antenne. Fabien qui nous appelle de Brest. Bonjour Fabien.
Oui, bonjour. Je voulais parler de la consultation d'entreprise, référendum d'entreprise, qui dans votre loi vous le portez comme un gage de décentralisation de la décision au sein de l'entreprise pour l'organisation du travail, et notamment si je prends l'exemple de Smart, en fait j'ai quelques doutes que rapprocher la décision au sein de l'entreprise soit vraiment un progrès social, puisque ça a été un exemple que la pression sociale auprès des salariés par les décideurs de l'entreprise, c'est-à-dire les employeurs, peut être vraiment un vrai chantage social. En l'occurrence, si vous menacez, comme ça a été le cas pour Smart, de délocaliser purement et simplement l'entreprise, évidemment, vous orientez fortement le vote des salariés. D'autre part, on a vu qu'il y avait un vrai schisme au sein de cette entreprise entre les cadres et les ouvriers. Et donc, le référendum comme solution miracle de la démocratie sociale au sein de l'entreprise au plus près des salariés, je n'y crois pas. Ou en tout cas, il faudrait mettre un peu plus de garde-fous dans la loi telle qu'elle est aujourd'hui rédigée pour que ce soit viable.
Merci Fabien. Je rappelle que le référendum peut être déclenché par un syndicat minoritaire à partir de 30%. Hein, c'est cela, hein, Myriam El Khomri.
Tout à fait. Bonjour, bonjour Fabien. Vous parlez de l'affaire Smart. À l'époque, j'avais eu l'occasion d'ailleurs de dénoncer que le dialogue social n'avait pas été particulièrement exemplaire dans cette entreprise. Et que finalement, le projet d'accord n'a jamais fait l'objet d'un accord, puisque quelque part, l'affaire Smart montre bien que ça a été l'unilatéral de l'employeur, puisque c'est l'employeur qui a proposé justement aux différents salariés de l'entreprise de modifier leur contrat de travail. Le sens du projet de loi, c'est de rappeler d'abord qu'un accord ne peut être valide que si il est signé par des organisations syndicales qui représentent 50% dans l'entreprise. Il y a une deuxième voie qui est proposée dans ce projet de loi et qui diffère par rapport à celle qui est proposée actuellement par la droite sénatoriale, c'est que en effet des organisations syndicales qui représentent 30% des salariés peuvent demander une consultation des salariés. Donc moi, je n'oppose pas la démocratie représentative à travers les organisations syndicales et, on va dire, la démocratie participative à la présence des salariés, parce que en effet, il peut sembler pour des organisations syndicales parfois de devoir demander l'avis aux salariés sur certaines questions. Mais les craintes que vous portez, et pour moi le meilleur des garde-fous, c'est justement de dire que la consultation des salariés ne peut pas être demandée par l'employeur. Ça, c'est le projet de la droite qui est aujourd'hui proposé au Sénat. Ce n'est absolument pas le sens de ce projet de loi. Donc, pour nous, aujourd'hui, vous savez, un accord peut être signé quand il est validé par des organisations syndicales qui représentent 30%. Avec la loi que je porte, l'accord ne sera valide que si les organisations syndicales représentent 50%, c'est le principe majoritaire, ou par des organisations syndicales qui représentent 30%, qui demandent, à titre exceptionnel, justement, une consultation par les salariés. Donc on est bien dans un système différent. Ce n'est pas ni de la consultation directe à la main de l'employeur et ce n'est pas non plus la fermeture totale, juste d'avoir que le principe majoritaire.
Laure depuis Paris. Bonjour Laure.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Merci. Donc bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Bonjour à toutes et tous. Voilà, je voulais savoir comment fait-il que le texte présenté soit si volumineux, donc 150 pages, et si complexe sur le fond, l'article 2 en est un exemple, alors que le but était celui de la simplification. Donc j'invite tous les auditeurs à consulter ce texte pour en prendre conscience, et je m'interrogeais sur mais y a-t-il mensonge sur la finalité, soit d'autant plus que des propositions de réelle simplification protectrices des différents intérêts ont été faites. Je pense par exemple au travail effectué par le collectif pour un autre code du travail. Je vous remercie.
Merci Laure. Myriam
bonjour, bonjour Laure. L'objectif de ce texte de loi est de développer la négociation collective, c'est-à-dire de développer une capacité d'adaptation de nos entreprises avec en même temps, et que ça ne se fasse pas au détriment des salariés, mais que ça se fasse bien justement en développant des nouveaux progrès. Donc ce texte, il a dans son architecture trois objectifs majeurs. La première, c'est développer la négociation collective, je le disais à l'instant, et c'est vrai que l'article 2 est long. Pourquoi ? Parce que nous avons réécrit les choses à trois étages. Ce qu'il doit demeurer dans la loi, c'est le cas par exemple de la durée légale, ce qui relève de la négociation collective, ce qui doit relever de l'accord au niveau de la branche ou l'accord au niveau de l'entreprise, et puis ce qui s'applique quand il n'y a pas d'accord. Et ce qui s'applique quand il n'y a pas d'accord, c'est le droit actuel. Donc en effet, nous avons pris 125 pages du Code du travail pour réécrire tout selon ces trois étages. C'est un travail qui est important, qui donnera de la simplification à long terme, mais c'est vrai que en la matière, ça fait beaucoup de pages, en effet, dans ce projet de loi. Mais il y a un deuxième objectif à ce projet de loi, et il ne faut pas l'oublier, c'est des nouveaux droits pour les salariés. La mise en œuvre du compte personnel d'activité, c'est-à-dire que nous ayons des droits qui soient attachés à la personne et non plus au statut. C'est le cas, vous savez, quand on rentre plus dans une boîte à l'âge de 16 ans pour 18 ans pour en sortir à 60, on voit bien aujourd'hui qu'on aura plusieurs employeurs, parfois plusieurs statuts, et donc cet objectif, il est très important, et donc c'est des droits nouveaux, plus adaptés au monde du travail, comme le droit à la formation, comme le droit à la garantie jeune pour les jeunes qui sont sortis du système scolaire. Et puis il y a d'autres articles de loi qui sont essentiels, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, les contournements du droit du travail se répandent. Le droit le travail détaché se répand, le travail indépendant également. Et donc, il nous fallait avoir la capacité d'avoir des meilleurs outils. Je pense par exemple sur la lutte contre la fraude au détachement, c'est une partie aussi dans ce texte, mais également donner un cadre aux contrats saisonniers. Nous avons beaucoup de personnes qui ont des contrats saisonniers, qui n'ont pas souvent suffisamment de droits. C'est aussi répondre au monde du travail d'aujourd'hui. Je pense par exemple à la responsabilité sociale des travailleurs qui travaillent pour les plateformes collaboratives. Ça fait partie également de ce projet de loi. Donc en effet, il y a des choses qui sont diverses, mais qui sont là aussi pour répondre au monde du travail que nous connaissons aujourd'hui.
Une suggestion d'auditeur, puisque vous ne savez pas réellement quel sera l'effet de votre loi sur les accords d'entreprise que vous voulez favoriser, puisqu'il n'y a pas eu réellement d'études d'impact, pourquoi ne pas avoir tenté...
Il y a 400 pages d'études d'impact.
Il y a une étude d'impact ?
Oui, vous savez 400 pages.
Vous savez combien d'accords d'entreprise vous pouvez atteindre ?
Non, on ne peut pas prévoir combien d'accords d'entreprise.
Et quel effet sur l'emploi, sur la fluidité du marché du travail, vous
L'objectif vous savez de ce projet de loi est justement à la fois de donner plus de clarté et de visibilité aux entreprises, notamment aux plus petites entreprises, de créer des droits nouveaux, et je le disais à l'instant, qui sont essentiels, et puis de développer la négociation collective. Un mot, en 1982, avec les lois Auroux, on créait des accords dérogatoires, les premiers accords dérogatoires, pour développer la démocratie sociale dans l'entreprise. Nous sommes aujourd'hui à 40 000 accords d'entreprise. Donc on voit bien que c'est inéluctable. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça permet de mieux nous adapter et parce qu'aujourd'hui, pourquoi le Code du travail il est gros ? C'est parce qu'il y a eu plein de dérogations demandées notamment par le patronat, justement pour que nous soyons en capacité de nous adapter à toutes les situations. On voit bien que ce système est à bout de souffle. Donc c'est inéluctable le développement des accords d'entreprise. L'enjeu aujourd'hui, c'est que ces accords ne se fassent pas au détriment des salariés, d'où l'accord majoritaire.
Donc je reviens à la suggestion de cette suggestion d'auditeur. Pourquoi ne pas avoir tenté, puisqu'il y a une si grande controverse, notamment sur cet article 2, une expérimentation, c'est-à-dire on teste, on applique la loi pendant un an et puis on voit quel est le résultat, quel est le produit réel sur le terrain.
L'auditeur a raison sur un point, c'est que les expérimentations en matière de droit du travail ne sont pas assez nombreuses. Nous avons fait la garantie jeune, qui a été expérimentée et qui va être généralisée. Nous avons fait, par exemple, le projet avec ATD Quart-Monde pour des demandeurs d'emploi de longue durée, que nous sommes en train de développer aussi. S'agissant des accords d'entreprise, c'est très compliqué. Vous avez une diversité des entreprises. Comment mettre en place une expérimentation de ce point de vue-là ? Mais l'accord majoritaire, nous l'expérimentons, par exemple, très concrètement, c'est dans le projet de loi sur la partie temps de travail, et nous allons le généraliser après une évaluation en 2019.
Les réseaux sociaux, Hélène Roussel.
Avec ce tweet de Pierre Jacquemin, ça vous dit quelque chose de votre cabinet, qui a donc claqué la porte de votre cabinet. Pourquoi les salariés ne pourraient-ils pas proposer l'objet de la négociation comme les 32 heures ou les hausses de salaire ?
Il y a des négociations obligatoires dans toutes les entreprises en matière salariale. Pierre Jacquemin doit le savoir. Donc c'est tout l'enjeu. Dans le cadre d'une négociation, ça peut être des demandes portées par les syndicats ou ça peut être des demandes portées par des chefs d'entreprise. Le projet de loi n'y change rien par rapport à cela. Pierre Jacquemin, la CGT propose les 32 heures. Aujourd'hui, pour moi, ce projet n'est... Je ne trouve pas ce projet utile pour notre pays. Voilà, je pense que la question du partage
des 32 heures,
celui des 32 heures, la réduction du temps de travail a été mis en place en 2001. Ça a permis la création de 350 000 emplois dans notre pays. Je pense que ça a été une très bonne chose. Mais je pense aujourd'hui que tout l'enjeu, c'est de permettre pourquoi les salariés et les syndicats n'auraient pas le droit d'échanger, de négocier au niveau de l'entreprise sur les éléments les plus structurants qui font leur quotidien. C'est ça la question qui est posée. Les salariés de notre pays se sont battus pour avoir le pouvoir, justement, de négocier dans l'entreprise. Moi, je considère que la question de la durée légale, et je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la droite, la durée légale, c'est la loi qui doit la mettre en œuvre. La question des salaires, il y a des négociations sur l'augmentation de salaire dans plein d'entreprises, d'ailleurs, et ça se fait dans le cadre d'une négociation obligatoire. Mais je considère que la question des branches est essentielle, s'agissant des classifications et des salaires. Il y a un rôle essentiel de ce point de vue-là, si on veut justement éviter le dumping social.
Alors Philippe nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour, je suis Philippe, je suis retraité. Et je suis militant syndical, hein. Je suis militant à la CGT, et depuis que je suis à la retraite, je défends les salariés devant le Conseil des Prud'hommes. Le mois dernier, on a eu un jugement des Conseils de Prud'hommes de Rochefort, hein, vous pourrez vérifier, où un ambulancier a été condamné parce qu'ils avaient un accord d'entreprise dans lequel, alors un accord d'entreprise qui avait été signé par une organisation syndicale, et il avait fait voter pour ça, hein. Ils étaient majoritaires, l'accord d'entreprise, normalement, il aurait été bon dans votre nouveau système. Sauf que là, l'accord d'entreprise était contraire aux accords cadres, c'est-à-dire que les gens en permanence, c'est-à-dire les week-ends, comme une forme d'astreinte, chez eux ça s'appelle la permanence, cette astreinte, elle n'était pas payée. Ils ne payaient que quand ils sortaient, le reste du temps, ils ne payaient pas. Alors que l'accord cadre prévoit un paiement à 70% du salaire. Là, ça équivaut à près de 200 euros par salarié. C'est des gens qui sont au SMIC, des gens qui sont au SMIC. Parce que tous vos beaux discours, c'est bien, mais dans les petites entreprises où il y a une dizaine de salariés, où la pression du patron est tellement forte que même le délégué syndical va signer, ils vont voter. Alors bon, il y a tous ses amis, il y a tout ça autour de lui, mais voilà ce qui se passe, la réalité c'est ça. Et ceux qui n'acceptaient pas, c'était la porte. C'est comme ça que les gens ont été au prud'homme, c'est parce qu'ils se sont retrouvés à la porte. Parce que si vous êtes dedans et que vous dites « je suis pas d'accord avec », c'est la porte. Alors ensuite vous dites « la réduction du temps de travail, ça produit 350 000 emplois les 35 heures ». Il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose. Il y a 25% des moins de 25 ans qui sont au chômage. À un moment donné, il faut arrêter de dire que les gens doivent travailler jusqu'à 67 ans et qu'on ne peut pas réduire le temps de travail. Bon, ma question, c'était simple, c'était sur les garanties que vous pouvez offrir aux salariés, avec notamment l'article 2 de votre loi.
Merci, merci beaucoup, Philippe. Myriam El-Khomri.
Philippe a raison sur un point. La question, il y a une relation qui est déséquilibrée entre un employeur et des salariés. C'est une réalité. Et c'est pour cela que le droit protège. C'est tout l'enjeu. Mais nous considérons que ce n'est pas pareil lorsqu'on est protégé par des organisations syndicales que quand le salarié est en face à l'employeur. Dans ce projet de loi, nous développons, contrairement au projet de la droite qui est justement dans l'unilatéral de l'employeur, nous développons par exemple ce qu'on appelle le mandatement syndical pour les petites entreprises. Et en effet, là-dessus, il y a une forme de bataille culturelle à mener dans le champ patronal pour accepter justement où ils ont cette vision qu'une personne mandatée dans l'entreprise, c'est un représentant syndical d'une unité départementale, d'un appareil venu d'en haut qui va débarquer dans la boîte. C'est pas ça. C'est un salarié de l'entreprise qui va être mandaté par une organisation syndicale, c'est-à-dire que nous considérons que c'est par le collectif, justement, que l'on est mieux défendu. Et l'objectif de ce projet de loi, c'est justement d'augmenter de 20% les moyens des organisations syndicales pour qu'elles puissent mieux résister. Donc nous aimons à la fois l'entreprise, bien sûr, mais nous aimons aussi les syndicats. Et l'enjeu de ce projet de loi, c'est justement de revitaliser la démocratie sociale au niveau de l'entreprise. Et c'est pas du tout un chèque en blanc aux employeurs. C'est pas du tout cela. C'est la capacité de passer d'une culture de l'affrontement à une culture du compromis et d'être protégé, assuré, défendu par des personnes formées et des organisations syndicales, et ne pas d'envoyer des salariés dans la gueule du loup patronal, excusez-moi, entre guillemets.
Question qui revient souvent ce matin, avez-vous déjà travaillé dans une entreprise privée ?
Oui, j'ai travaillé dès l'âge de 16 ans avec mon père qui avait un magasin de photocopie, et après j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 23 ans dans le privé.